débat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'épisode 71 du podcast Démo et Débat. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais rappeler le concept de l'émission, enfin du podcast. À chaque épisode, nous tirons au sort deux livres et une BD. Et le mois d'après, avec les chroniqueurs et chroniqueuses qui m'accompagnent, nous les critiquons et les analysons. Aujourd'hui, au menu, nous avons Les Petits de Décembre de Kaother Hadimi, Banana Fish de Akimi Yoshida et Eden Springs de Laura Kashiske. Et pour m'accompagner dans la critique de tous ces ouvrages, j'accueille d'abord une habituée du podcast. Bonjour Cyrielle.
Bonjour Mehdi, bonjour Antoine.
Quelle est ta phrase du mois ?
Alors, ma phrase du mois a été très compliquée à choisir en raison d'une difficulté que j'ai sur la prise de décision. Donc voilà, j'ai pas réussi à choisir et du coup j'en ai deux. L'une qui m'a paru assez glaçante et l'autre assez surréaliste. Alors est-ce que j'ai le droit de dire les deux ?
Oui.
Vous voulez voter ?
Tu as accord pour une exception.
Alors pour celle qui est glaçante, c'est une phrase du discours de politique générale de Gabriel Attal qui, tout fraîchement promu Premier ministre et qui incarne le réarmement civique. J'imagine que vous la connaissez déjà, mais elle m'a vraiment marquée. Donc cette phrase, c'est « Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. »
C'est un effet glaçant.
Et pour la citation surréaliste, j'avais envie de faire une petite référence à une grande épopée de ce début d'année. Il s'agit de la fameuse histoire du collège Stanislas par Amélie Oudéa-Castéra. Alors, la citation d'Amélie résume très bien le « en même temps macroniste ». Et il s'agit de « je n'ai pas menti, c'est la réalité qui m'a donné tort ».
Ça, c'est vrai que c'est une très belle phrase. Et j'accueille un nouveau. Bonjour Antoine.
Bonjour Mehdi, bonjour Cyrielle.
Comment ça va ?
Eh bien, ça va très bien, et vous ?
Très bien, très bien. Quelle est ta phrase, dis-moi ?
Alors, j'ai pris une phrase peut-être plus inspirante, ou en tout cas moins... comment tu as dit, sinistre ou glaçant? Non, moi, c'est un petit proverbe ou une petite maxime que j'avais bien aimé, qui dit la chose suivante. Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver. On me l'avait vendu comme un proverbe russe, mais il se trouve que ce n'est pas du tout russe, en fait. Je ne sais pas trop d'où ça vient, mais je trouve que c'est une jolie phrase qui peut aider parfois.
Très bien, en effet. Un peu d'espoir dans ce monde de brut. Merci, Antoine. Et quant à moi, ma phrase du mois, c'est... La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, une phrase qui est désormais dans notre Constitution. Et on va pouvoir passer au gros du morceau, ce que vous attendez tous, les critiques du podcast.
800 pages de trop,
c'est si bon.
Oh, c'est si bon.
15 chapitres pourris.
C'est extra. C'est extra, c'est extra.
Et on commence les critiques avec Les Petits de Décembre de Kaother Hadimi que je vais vous présenter. Alors Les Petits de Décembre, c'est un roman donc d'une romancière algérienne, Kaother Hadimi, et l'histoire se déroule dans une banlieue d'Alger. Plus précisément, on est situé autour d'un terrain vague qui est utilisé par des jeunes adolescents et des enfants pour des parties de football quasi quotidiennes qui semblent constituer l'une des activités principales de ces jeunes, jusqu'au jour où des généraux, des anciens généraux qui ont déjà fait leur carrière derrière eux, veulent s'accaparer ce terrain pour y construire leur villa. Quelque chose qui pour eux paraît assez naturel, mais qui va susciter la colère des enfants et une opposition inattendue. Et c'est à partir de ce conflit qui est au cœur du récit, qui est le prétexte de l'histoire, que Kaother Hadimi va construire un récit qui est assez court, 200 pages à peu près, mais qui brosse le portrait de plusieurs générations d'Algériens qui n'ont pas les mêmes expériences, qui n'ont pas les mêmes aspirations, ni même le même rapport à l'Algérie, en fonction de ce qu'ils ont vécu, de la période à laquelle ils ont vécu. Et cette confrontation entre les personnages et entre les générations va faire apparaître, je trouve, de manière assez, assez remarquable, plusieurs facettes de la société algérienne et de son histoire. Et c'est un livre qui se lit, à mon avis, vraiment très bien, notamment parce qu'il varie assez rapidement les points de vue de personnes assez, assez différentes, tout en arrivant en peu de mots à dire beaucoup de choses. Et donc, c'est un récit qui m'a emballé et qui m'a intéressé sur beaucoup de thématiques qu'on va aborder ensemble, je pense. Mais avant, je vais vous demander, vous, ce que vous en avez pensé. Je vais commencer par Antoine.
Les Petits de décembre, donc, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai trouvé ça très intéressant, presque... Alors, pas documentaire, mais en tout cas, pour qui ne connaît pas l'histoire contemporaine de l'Algérie, ce qui était mon cas, j'ai appris énormément de choses. Et finalement, ce qu'on apprend, on l'apprend au fur et à mesure de la lecture. C'est jamais assommant, c'est assez fluide. Et donc oui, pour peut-être un coup de cœur, en tout cas, sur une romancière que je ne connaissais pas.
Cyrielle ?
Pareil, j'ai un avis vraiment plutôt très positif sur ce roman, que je trouve déjà sur la forme, comme vous le disiez très justement, est très fluide. Et on se plonge vraiment très facilement dans l'histoire et les différents dialogues des personnages. Et finalement, on suit quand même un nombre assez important de personnages, mais on ne se perd jamais. Et en quelques phrases, je trouve qu'on est vraiment prise par leur récit. Et moi, j'aime bien qu'au démarrage, on a l'histoire de ce terrain vague, qui peut sembler relativement simple et anodine.
Et classique.
Ouais, et classique. Et finalement, ça va vraiment nous emmener dans des réflexions beaucoup plus profondes. Et comme toi, sur notamment l'histoire de l'Algérie actuelle et je trouve, de manière globale, sur l'humanité. Quoi. C'est assez... Moi, j'ai retrouvé vraiment des choses hyper intéressantes qui m'ont fait écho, quoi.
Peut-être sur l'Algérie plus précisément, moi ce que j'ai vraiment trouvé assez fascinant, c'est le point de vue qu'elle apporte sur des périodes importantes pour l'Algérie, qu'elle mentionne, les périodes sombres de l'Algérie en lutte contre le terrorisme islamique, le rapport à l'armée et la toute puissance de l'armée en Algérie pour contenir la population, qui a eu aussi son rôle dans la lutte contre les terroristes, mais qui en même temps profite de cette lutte pour opprimer un peu tout le monde et les libertés. Et je trouve que via les points de vue des différentes personnes, des différents âges, elle réussit à dresser un tableau assez nuancé, en fait. Il n'y a pas vraiment de grands méchants, mais plutôt des personnes qui ont vécu des choses et qui essayent de faire avec, même si, évidemment, la corruption de la société algérienne est quand même fortement pointée du doigt.
Après, sans avoir de grands méchants, il y a quand même des personnages qui vont être plus sympathiques que d'autres à la lecture. Et ce qui est assez intéressant, j'ai trouvé que la plupart des personnages, finalement, c'était un peu des archétypes, ou en tout cas des archétypes de rôles qu'on pouvait retrouver dans la société algérienne, avec par exemple des généraux ou des officiers un peu de grade moindre, mais qui aspirent à monter en politique, dans l'opposition, etc. Donc oui, sans être expert de l'Algérie, ça donne vraiment l'impression d'une, pas non plus une fresque sociale, parce que le livre est court, mais vraiment une fenêtre ouverte sur ce pays.
Après, on sent qu'elle prend quand même un malin plaisir à ridiculiser un peu les militaires, et en particulier ces deux généraux qui sont un peu paranoïaques. Enfin ouais, ça entraîne toute une histoire. Et c'est vrai que moi, évidemment, ça m'a tout de suite emballé, ces enfants qui se dressent face à l'injustice et qui vont lutter pour ce terrain. Et contrairement aux adultes ou aux parents qui vont être plus dans une sorte de fatalité ou de laisser faire. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant, et j'ai l'impression que l'autrice, elle a quand même voulu souligner un petit peu une sorte d'espoir aussi de la jeunesse, Et du lien aussi intergénérationnel, comme tu le disais, entre les luttes actuelles et puis celles du passé. Et en particulier, je trouve, avec le personnage que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est la Mujahida Adila, qui est tout de suite attachante et qui fait, je trouve, ce lien vraiment entre les enfants et les jeunes et puis l'histoire. Quoi.
Et qui a un rôle un peu particulier parce qu'elle... De son statut, parce qu'elle a été très active pour la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, c'est ça.
Ça, ouais.
De son parcours, de son histoire, on peut rien lui dire, on peut rien lui reprocher.
Même les généraux.
Même les généraux. Et du coup, elle en profite, elle, pour dire des vérités que les autres ne peuvent pas se permettre de dire sous peine d'être embarqués direction le commissariat. Et justement, si on parle de ce personnage, je pense qu'on peut parler aussi plus généralement de la description des femmes dans le livre, qui est quand même, je trouve, là aussi très réussi, parce que c'est des portraits très différents de la Mujahidine à sa fille, d'ailleurs, qui est aussi présente dans le livre, à la plupart des autres personnages, qui permettent aussi de montrer toutes les, évidemment, difficultés d'être une femme de manière générale et d'être une femme en Algérie dans cette période-là.
Notamment par sa fille aussi, je trouve, qui raconte un peu son histoire et est assez dure aussi.
C'est assez dur, oui. Et sur à la fois le rapport à la société, mais le rapport aux hommes, aux couples, etc. Et je trouve que par petites touches, c'est jamais des grands portraits, mais par des petits traits qu'elle dessine sur ses personnages, elle arrive à montrer beaucoup de choses assez belles sur ce que vivent les femmes algériennes et sans rentrer non plus dans les clichés de la femme opprimée et uniquement victime. Non, elles ont beaucoup de facettes et c'est très intéressant de les découvrir, je trouve, au fil de la lecture.
Oui, je pense que les femmes, effectivement, ont un rôle assez important dans l'histoire qu'elles nous racontent. Mais les hommes aussi, je trouve qu'elle décrit aussi les dégâts de la guerre. Donc chaque... Il y a un panorama de personnages quand même qui sont assez riches, je trouve. Et effectivement, on retrouve évidemment peut-être quelques clichés, mais pas tant que ça, finalement. Elle essaye quand même à chaque fois d'apporter de la nuance aussi. Je suis d'accord.
Et sur la tonalité du livre... J'avais un peu l'impression, en commençant la lecture, que le livre allait être sur le format d'un conte ou d'une fable, d'une petite histoire un peu parabole sur la société, et du coup, je m'attendais à une tonalité finalement assez légère. Et le livre est toujours un peu entre les deux, je trouve. Il y a des instants un peu d'éclaircie, mais c'est jamais non plus totalement naïf, même si j'aime pas trop ce mot, mais... Là, la naïveté fait souvent aussi place à une certaine de lucidité, parfois un peu désespérée, des moments un peu tristes. On ne va pas spoiler le livre, donc on ne parle pas de la fin. Mais de manière générale, il n'y a pas de... Ce n'est pas non plus un conte pour enfants. C'est vraiment quelque chose d'assez dur, souvent, et sans rentrer dans des... Enfin, il n'y a pas de moments particulièrement atroces, mais c'est une sorte d'ambiance générale où les personnages sont un peu désabusés, tous, même ceux qui ont eu des idéaux les ont progressivement un peu perdus ou les ont vendus. Seuls les enfants incarnent un peu les petits enfants.
Oui, et qui sont aussi un peu engoncés dans une manière de lutter, quoi. Et qu'il n'y en a pas d'autres. Et effectivement, les enfants vont venir un petit peu pousser les murs pour...
Après, j'ai jamais trouvé ça pesant non plus. Même quand on aborde parfois des sujets un peu plus durs. Je trouve que ça reste assez équilibré, cette manière de présenter les choses. Et la figure, effectivement, des figures plus optimistes, il y a évidemment les enfants, notamment les trois enfants qui vont être au centre de cette histoire. Et aussi la vieille Mujahidine, qui je trouve, elle a une vie compliquée qu'elle va décrire dans le livre, incarne toujours une figure d'espoir qui veut regarder vers l'avenir et étendre la main aussi aux générations futures.
Il y a elle et il y a aussi le personnage de la folle, entre guillemets.
Oui, qui est assez étrange. Oui. Assez
très intriguant, oui.
Oui.
Aux cheveux rouges.
Qui mène un peu aussi le...
Et d'ailleurs, les enfants, sans vouloir du tout spoiler, mais ils acceptent finalement la Mujahida et la femme aux cheveux rouges Donc, qui arrive à faire ce lien avec les enfants, quoi.
Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais c'est assez rapide dans le livre, hein, mais il y a un rejet des enfants. Les enfants rejettent tous les adultes, en fait, en essayant de s'approprier leur terrain. Et il y a une sorte de crise générationnelle qui s'instaure dans le livre, où il y a une frontière qui sépare des enfants qui n'acceptent plus la réalité, qui n'acceptent plus le monde tel qu'il est, et qui font tout pour le pousser dans un autre sens.
Est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'est les adultes qui n'osent pas aller vers les enfants?
Il y a un peu de tout.
Parce que c'est jamais clair sur les adultes, effectivement, qui ne vont pas... Donc pas s'approcher ou pas rejoindre au moment les combats, mais on ne sait pas si c'est parce qu'ils ne sont pas autorisés à y aller ou parce qu'ils hésitent, effrayés des conséquences qu'ils pourraient avoir pour eux.
Les répercussions, il y a une certaine peur aussi à être du coup...
Du côté de la révolution. Et donc en effet, le fossé existe, mais on ne sait pas la faute à qui.
Et un point assez frappant aussi que j'ai trouvé, c'est sur l'ambiance très paranoïaque qui règne dans ce livre où tout le monde, dans le monde des adultes, tout le monde se méfie de tout le monde, et à tel point qu'on pense que les enfants sont instrumentalisés alors qu'ils ont 10 ans, donc, et que non, c'est une lutte d'enfants et ils défendent ce qu'ils jugent être leur bien et leur bon droit.
Oui, et même les relations entre les militaires, quand ils se réunissent dans les bureaux du chef, qu'ils les trouvent un peu ridicules, et même entre eux, ils se soupçonnent de est-ce que lui, il va me mettre un couteau dans le dos. Enfin, il y a clairement un état de suspicion permanente d'être dénoncé ou de ne pas être, de correspondre à ce qui est attendu d'un militaire algérien ou de quelqu'un de la société algérienne. Et je pense que ça rejoint beaucoup le côté un peu dictatorial du régime qui instaure forcément une parano de ses habitants.
Oui, et ce qui aboutit à des situations paradoxales où au bout de la paranoïa, il y a une relation de confiance où, avec deux personnages où ils savent que chacun a des dossiers sur l'autre et que du coup, ils sont en mesure chacun de faire tomber l'autre, donc ils se font confiance.
Donc ils sont amis. Une belle conception de l'amitié.
Finalement. Ouais, mais au-delà de tout ça, c'est vrai aussi que... Moi, ça m'a fait aussi écho un peu ce terrain vague. Moi, je sais que dans mon enfance, on en avait un aussi dans mon quartier. Et alors, nous, on l'appelait le cross parce qu'on venait avec nos vélos et que moi, j'aime pas le foot. Mais, voilà, du coup, et ce lien avec une zone où on est plusieurs à l'utiliser, ce côté-là, moi, ça m'a fait aussi bien écho. Alors, chez moi, c'était pas des militaires, c'était des promoteurs immobiliers qui ont finalement dégagé ce terrain vague. Mais effectivement, ça, je trouve qu'elle arrive aussi à faire des échos aux jeunesses des uns et des autres.
Oui, puis derrière ce terrain vague, il y a toutes les questions des biens communs, de la réappropriation du mobilier urbain, de qu'est-ce qu'on fait des enfants, qu'est-ce qu'on fait des pauvres, de comment est-ce qu'ils peuvent avoir eux aussi le droit à vivre, à exister, à jouer sur des lieux qui sont convoités par des plus puissants et des plus riches. Donc, en effet, comme tu l'as dit au début, Cyril, quelque chose d'assez universel finalement, un côté David contre Goliath.
Oui, c'est tout à fait ça, oui.
Mais qu'elle retranscrit en effet très bien... Dans le prisme algérien, on va dire. Je vous pose la question rituelle. Est-ce que vous recommandez le livre, Antoine?
Oui, tout à fait. Encore une fois, pour moi, c'est une découverte et un coup de cœur.
Cyril?
Pareil, je recommande chaudement. Très intéressant et universel, donc parfait.
Et moi aussi, vous l'aurez compris, donc c'est une recommandation unanime du podcast pour les petits de décembre de Kawther Adimi, et je vais vous en lire un extrait. À la fin, lorsqu'ils eurent épuisé tous leurs arguments, qu'ils furent certains d'avoir fait le tour de la discussion, Inès demanda « On se lance quand ?» Madi répondit « Il faut déjà tout rassembler. » Jamie l'approuva. « Nous devons aussi en parler aux autres, aux enfants de l'école, du quartier, et même de plus loin, les convaincre de se joindre à nous. » Inès acquiesça. Ils entreprirent de balayer de nouveau tous les trois la liste de ce dont ils avaient besoin. Il y eut un silence qui se prolongea. Inès proposa « On peut se donner 2 ou 3 semaines pour tout trouver et on peut commencer en mars. »« Ça semble bien, mais on n'est pas un peu dingue quand même, non ?» demanda Jamil. « Bien sûr qu'on est dingue, » répondit Madi avec un grand éclat de rire. « C'est pour ça que ça va marcher. » Les trois enfants étaient collés les uns aux autres, leurs manteaux fermés jusqu'au cou, en train de conspirer et de rire. Dans l'esprit des gens, les enfants ne conspirent pas, les enfants ne luttent pas. Si un seul adulte dans ce pays imaginait 3 secondes qu'un petit pouvait échafauder des plans, se battre contre un ordre établi ou quoi que ce soit dans le genre, sans être manipulé ou poussé par un grand, voire un gouvernement étranger, les enfants seraient sur écoute, ils seraient suivis, ils seraient arrêtés. On créerait des camps spécialement pour eux. Et on passe maintenant à la deuxième critique du podcast, celle de Banana Fish, qu'Antoine va nous présenter.
Oui, merci Mehdi. Donc, Banana Fish de Akimi Yoshida. C'est donc une série de mangas en 19 volumes qui est parue donc, entre 1985 et 1994. Bon, pour m'être un peu renseigné, donc, succès critique et du public, qui a même donné lieu voilà, à un tour opérateur japonais qui a créé un circuit dédié dans New York pour visiter les lieux emblématiques de ce manga.
Ah ouais.
Et voilà, qui est arrivé en France donc, en 2002. Donc Banana Fish, pour résumer très rapidement, on va suivre donc, l'histoire de Ash Lynx, qui est un loubar ou un petit chef de gang, qui va se retrouver pris dans une histoire autour donc ce qu'on suppose être une drogue, et avec des morts étranges qui sont liées à tout ça. Et ce mot, Banana Fish, qui revient dans la bouche de plusieurs des gens qui tournent autour de cette affaire, soit qu'ils en sont morts, soit qu'ils étaient témoins de choses qu'on ne sait pas trop. Là, pour cette émission, on a donc lu le tome 1, donc 1 sur 19, ce qui fait qu'on a juste eu l'introduction de l'histoire, mais voilà, qui est une bonne ouverture et qui donnera peut-être envie de connaître la suite.
Et ça reste quand même un gros volume, hein, parce que ça fait...
Tout à fait, je n'ai pas compté les pages, elles ne sont pas numérotées, mais le livre est assez imposant. Mais se lit assez vite.
Est-ce que ça t'a plu ?
Alors encore une fois, vu que c'est le tome 1 sur 19, c'est dur à dire. En tout cas, il m'a bien hameçonné, dans le sens où ça se termine un peu sur un cliffhanger. Donc oui, j'ai quand même envie de savoir la suite. Mais après, pour savoir si ça m'a plu, j'aurais besoin voilà, peut-être de savoir où nous emmène cette histoire finalement. Puisque là, ils vont, dans ce premier tome, ils vont poser beaucoup de pistes, introduire beaucoup de personnages, mais sans qu'on sache, voilà, à ce stade, il n'y a rien qui laisse présager du dénouement.
Et toi, Cyrielle, quel est ton premier ressenti de Banana Fish ?
Alors, quand j'ai vu que la bande dessinée déjà était un manga, j'étais ravie et emballée. Tant les mangas, en fait, ont accompagné mon adolescence. D'accord. Donc, voilà, j'étais ravie.
Une parenthèse, mais donc, ouais. T'es un peu en deuil en ce moment avec la mort de Toriyama
qui nous a quittés. Exactement, oui.
Peine partagée.
des grands noms. Et c'est vrai que celui-ci, en plus, je le connaissais vraiment pas. Et vu le nom du manga Banana Fish, je me suis dit... Chouette, on va se détendre. Et en fait, pas vraiment. Tout d'abord, je trouve ce manga assez déroutant sur pas mal d'aspects. Et c'est vrai que la première page nous présente, comme souvent dans les mangas, les personnages principaux de l'histoire. Et premier constat direct pour moi, hein, et c'est une réflexion que je fais souvent dans ce podcast, c'est qu'il n'y a absolument aucun personnage féminin.
Et pour le coup, là, vraiment, aucun.
C'est ça. Et effectivement, quand on lit le manga, il doit y avoir une ou deux cases où des femmes sont représentées. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il s'agit d'une mangaka. Pourquoi une femme. Une femme, donc pourquoi ce choix ? Donc voilà, c'est assez étonnant. Et c'est vrai, même les thèmes qui sont abordés, ils sont assez masculins. On a des policiers, des gangs de jeunes, la mafia, une enquête sur une drogue. Donc on a beaucoup d'actions aussi. Et finalement, les quelques femmes qui peuvent être évoquées ici et là, c'est souvent en lien avec une histoire amoureuse, du sexe. Voilà. Donc, c'est assez étonnant. Et après, je trouve que c'est vraiment un manga qui est atypique aussi par les thèmes qu'il aborde, et en particulier celui de la prostitution et du viol, qui est quand même assez exceptionnel pour un manga. Moi, j'ai peu vu ça, et encore plus dans les années 80.
Et entre hommes.
Et entre hommes aussi, ouais, ouais, tout à fait, exactement. Il aborde voilà, des sujets assez atypiques. Et il est d'ailleurs classé comme un shoujo,
Oui, j'ai vu ça. Ouais. C'est vrai que j'ai oublié de le dire dans ma présentation, mais en me renseignant, j'ai vu qu'il était classé comme shoujo. Alors moi, j'y connais pas grand-chose en manga, mais voilà, j'ai vu que ça c'était donc une catégorie de manga dit pour filles. Et c'est vrai que bon, on peut s'attendre voilà des histoires un peu mièvres et tout, alors que pas du tout.
Oui, le shoujo, c'est aussi souvent des histoires qui racontent des relations homosexuelles, c'est ça ?
Pas forcément. C'est des comédies romantiques, d'accord, généralement. Mais effectivement, je pense que justement, c'est classé aussi en shoujo. Après, il faut aussi voir peut-être la suite de l'histoire, hein, mais notamment par les thèmes qui sont abordés, effectivement, comme la prostitution, des agressions sexuelles, etc.
Non, et la pédophilie aussi.
Et la pédophilie, oui, tout à fait.
Il y a des thèmes, assez, pour le coup, qui sont assez pesants, je trouve, plus que dans le livre précédent.
Et ben, moi, je vais reprendre exactement le mot que tu as employé, Cyrielle, le mot déroutant. C'est vraiment une lecture assez étrange, hein, ce livre. Je ne vais pas redire tout ce que tu as dit, mais j'ai eu un peu les mêmes réflexions sur le fait de « Ah, je lis une mangaka, c'est assez rare d'avoir... »
Tout à fait, oui.
Surtout à cette époque, hein, comme tu l'as rappelé, Antoine, c'est un manga qui commence à dater pour le Japon. On lit donc le roman d'une mangaka et on tombe sur l'histoire de bonhomme qui se tape dessus pour des histoires de drogue dans la mafia américaine en plus. Donc c'est aussi surprenant aussi d'avoir ce point de vue japonais sur New York ou sur les États-Unis. Un États-Unis évidemment fantasmé et très différent de la réalité. Avec quand même des personnages japonais, journalistes, qui servent un peu de point de vue japonais sur cet Occident dépravé. Assez intéressant le rapport entre les deux. Et pareil que toi, Cyrielle, assez surpris en effet de... Alors, d'abord de l'absence de femmes, mais que j'ai vite perçu comme étant la reprise justement de tous les stéréotypes et clichés des guerres de gang américains, un peu western, un peu film de gangster, etc., qu'elle reprend à sa sauce, j'ai envie de dire, mais donc qui sont déjà des thématiques assez masculines dans les matériaux de base, notamment américains, mais surtout aussi de ce rapport avec la sexualité et le genre. Vous l'avez déjà abordé, moi, ça m'a vraiment toujours perturbé, on va dire. J'ai jamais su sur quel pied danser, puisqu'à la fois, je trouvais ça intéressant de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, Et en même temps, toujours un peu dérangé dans ma lecture parce que la représentation de l'homosexualité est toujours faite à travers le viol d'adultes sur des mineurs. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très efféminés dans les traits, pas efféminés, androgynes, qui ont des traits androgynes de jeunes garçons qui pourraient être... des personnages de manga qui ont ces clichés de personnages au genre trouble. Beaucoup d'utilisation de ce type de personnages et en même temps des relations qui se créent, qui se nouent entre les personnages principaux là, qui seraient plus consentants mais sans que ce soit jamais officiellement, on sait jamais est-ce qu'ils sont amis, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, etc. Donc je trouve qu'il y a toujours un fil un peu délicat de ce livre. Et j'ai jamais su si je trouvais ça parfois affreux ou intéressant. Et je crois qu'au final, j'ai quand même trouvé ça plutôt intéressant parce que ça m'a poussé à continuer la lecture, à sans cesse m'interroger sur mais qu'est-ce que je suis en train de lire.
Ah, moi, à l'inverse, j'allais dire que j'ai trouvé ça affreux ce qui arrive au personnage. Et pour moi, c'est vrai que tous ces rapports vont être dépeints d'une manière assez violente, mais c'est inhérent au milieu qui est dépeint, puisque on parle de mafia, de petits gangs, de chefs mafieux, etc. Donc, avec un passage en prison également. Donc, c'est quand même des milieux, en tout cas, voilà, qui, dans mon imaginaire, sont toujours assez conflictuels et violents. Et là-dessus, ce manga le retranscrit assez bien.
Hey, je pense que c'est aussi le fait que ce soit le premier tome. Donc, je pense que c'est vraiment pour mettre en place le décor et le passé, notamment de Ash. Dans quoi il évolue. Et je pense qu'il va avoir des personnages beaucoup plus... je pense notamment le journaliste japonais, qui va avoir une autre conception, effectivement, de la vie, etc. Donc, je pense que... en tout cas, moi, je lui donne... je pense que ça reste un point de départ pour que derrière, tous les personnages puissent évoluer, et notamment celui du personnage principal de Ash, quoi.
Mais je pense que... Au-delà de l'évolution des personnages, etc., il y a quand même des choses qui vont revenir, à mon avis, et là, qui sont assez sidérantes, notamment dans la, vous l'avez déjà évoqué, hein, mais l'utilisation et la description des viols, du viol, où parfois on a le viol qui est utilisé comme, comme presque un moyen de torture ou pour avoir des questions par un des personnages. Et donc on va avoir une ellipse où le personnage principal se fait violer. Et donc c'est dans l'histoire, hop, il s'est fait violer, il s'en sort après, mais on lit ça. Et c'est si rare déjà de voir un homme se faire violer dans une œuvre comme ça. Et de le voir de manière aussi frontale, de ça fait partie du truc. Après, il continue ses aventures juste après. Mais et j'avoue que ça, ouais, ça interroge. D'accord.
Parce qu'il y a des thèmes très difficiles qu'ils ont du coup abordés, hein, mais finalement ils sont pas vraiment traités. Hein. Donc c'est vrai que on se prend une sorte de violence dans le manga et sans avoir forcément le temps de bien assimiler, de comprendre, etc. Donc c'est vrai que c'est assez déroutant. Encore une fois, Mais je pense, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est une manière quand même pour elle aussi de dénoncer la violence, en fait. Et tu parlais avant du fait étonnant que ça se passe à New York et pas du tout au Japon. Et il y a assez peu de mangas quand même qui se passent hors Japon. Moi, j'en connais qu'un seul, c'est Monster, qui se passe en Allemagne. Et je me demande si c'est justement pas une manière pour elle de finalement de parler de thèmes difficiles. Mais qui ne se passe pas au Japon, donc c'est OK. Enfin, oui. Voilà, de finalement aborder des choses, parce que c'est à New York, donc il y a une certaine distance, je ne sais pas.
Oui, puis qui va aussi un peu à l'encontre de l'image romantique qu'on peut avoir des gangsters américains dans certains films, où voilà, on va les présenter sous un jour parfois héroïque, parfois tragique. Là... c'est quand même assez terre à terre sur l'approche, et si ce n'est dans les yeux des Japonais, c'est vrai que les Japonais qui apportent un regard extérieur, eux vont être plutôt fascinés au contraire par ce qu'ils voient de ce monde de loubar américain.
Et c'est aussi parce que je pense que les auditeurs et auditrices qui connaîtraient pas le manga et qui nous écoutent pourraient avoir une image peut-être un peu faussée du manga. Je pense qu'il faut aussi dire que c'est aussi un manga qui va à 100 à l'heure en termes d'aventure, en termes de rythme, en termes de il se passe un truc tous les deux pages, des cliffhangers, des courses-poursuites, des bagarres, etc. Il y a aussi, c'est bourré d'action, c'est aussi très léger, entre guillemets, mais très plaisant à lire dans ce rythme-là. Et ce qui rend les quelques passages particulièrement affreux encore plus affreux, c'est qu'on est emporté dans une sorte de tourbillon perpétuel, de fuite en avant autour d'une histoire un peu farfelue. Et du coup, tout passe comme ça, d'une sorte de torrent hyper rythmé et hyper agréable à lire, en plus.
Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, le rythme est très emballant. En fait, on avale, je trouve, le manga très rapidement. Et j'ai trouvé aussi, je ne sais pas si... je trouve qu'il y a un aspect un peu Game of Thrones, parce que, clairement, il ne faut pas s'attacher aux différents personnages, parce que rien que dans ce premier tome...
Il y a de la casse.
Il y a de la casse, quoi. Et c'est vrai que c'est aussi assez étonnant souvent, il y a beaucoup de mangas, qui peut-être il y a un personnage qui va peut-être mourir à un moment, etc. Là, non, ça...
Surtout au premier tome, en plus.
Surtout au premier tome, on te présente des personnages, on s'y attache et pouf, terminé.
Ouais, mais c'est pas des morts qui sont gratuites. Enfin, ça, selon moi, ça sert de moteur dans l'histoire, puisque ça va servir de motivation pour que les autres protagonistes agissent ensuite. Et je voudrais juste revenir sur le rythme. Alors effectivement, ça va assez vite. Et je ne cache pas qu'il y a un ou deux moments où j'étais un peu perdu dans ma lecture, où d'une case à l'autre, je ne comprenais pas trop la transition ou ce qui était dessiné. Mais voilà, cela dit, pour ne pas vous refroidir, c'est arrivé qu'une ou deux fois. Et pour le reste, ça reste très large, très bien lisible. Et la patte graphique reste assez claire, avec des dessins que je n'ai pas trouvé renversants, mais qui sont assez efficaces.
Pour aller peut-être dans ton sens, Antoine, moi je pense qu'il y a deux ou trois personnages que j'ai confondus, car elle a tendance à dessiner parfois un peu pareil certains types de personnages secondaires.
Les Américains, oui, globalement,
qui sont grands blonds avec des moustaches.
Oui, grands blonds à moustaches.
Ouais, c'est ça.
Et j'avoue que, comme il y a beaucoup de personnages
d'accord.
En plus, on peut vite, s'y perdre.
Ouais, moi aussi, j'ai eu cette impression un petit peu sur. Effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est efficace, hein, le dessin est très efficace, mais effectivement, il y a. On sent aussi un peu une patte quand même des années 80. Enfin, je trouve qu'on le ressent. Mmh. Et effectivement, certains personnages se ressemblent énormément. Ça va mieux, je trouve, à partir du après le premier tiers, on commence
à être dedans. On s'habitue aux intrigues, aux sous-intrigues.
Voilà, il y en a qui meurent, donc voilà, c'est fini. Mais je trouve que ça va mieux. Moi, j'avais quand même un petit bémol. C'est que, bon, les personnages sont quand même globalement très caricaturaux. Mmh. Donc voilà, il y a des...
À part H, je trouve que j'ai du mal un peu à cerner.
Ouais, bah, ce serait un peu aussi peut-être mon deuxième bémol, c'est que, en tout cas moi, sur ce premier tome, j'ai pas vraiment réussi à m'attacher au personnage et même H, en fait. Voilà. Mais je pense que voilà, c'est un premier tome introductif. Mmh. Faut vraiment planter le décor. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore complètement attaché au personnage, aussi parce qu'il y a plein de mystères aussi.
Ils sont étranges. Mmh. Et puis ils sont tous un peu moralement, sauf peut-être les Japonais, mais ils sont tous moralement un peu troubles.
Gris.
Oui, même la majorité des policiers ou des représentants de l'ordre ou de la justice qu'on voit, effectivement, sont plutôt des pourritures.
Oui.
Mais c'est vrai qu'à ce stade, j'ai pas réussi à très bien comprendre pourquoi, du coup, il n'y avait pas de personnage féminin. Du tout, quoi. C'est vrai que c'est quand même assez étonnant.
Et puis, c'est un choix.
Et c'est un choix, clairement. Oui, je suis d'accord. Donc, peut-être, c'est pour les prochains tomes qu'on comprendra.
L'une des explications, peut-être, mais alors, je crains que ce soit un regard, de féministe du 21e siècle qui ne correspond peut-être pas forcément à ce qu'elle voulait mettre, mais il y a peut-être une dénonciation que toutes ces choses affreuses qu'ils font, ces personnages, il n'y a que des hommes pour faire ces trucs-là. Des hommes dominants, des hommes en capacité de tuer, de violer, etc. Et que, du coup, ce n'est pas un monde de femmes, ce monde abject de la mafia et de la drogue. Une théorie, mais...
Oui.
Et peut-être juste une dernière chose, moi je voulais... Parce qu'on a parlé du rythme et on a un peu parlé des dessins en disant qu'en effet, c'est quelque chose d'assez assez sobre et parfois confusant pour les personnages. Par contre, je trouve que dans la description des actions, la limpidité de ce qui se passe, je trouve qu'on comprend toujours tout de suite qui court où, qui va où, comment les combats s'enchaînent, comment ils arrivent à s'en sortir ou pas. Et là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez fort à la fois dans la construction de la page, dans la mise en scène, dans le trait. Très vif, très léger, qui est une certaine prouesse, parce qu'elle enchaîne quand même beaucoup de situations avec beaucoup de personnages.
De lieux différents,
dans des trucs étroits, etc., où il se passe beaucoup de choses à la minute. Et moi, j'ai toujours trouvé ça très fluide et très compréhensible, ce qui se passait, et ça, j'ai trouvé ça assez fort. Et ça aide, évidemment, à la lecture.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Très bien. Alors, j'ai deux questions d'un coup. Un, est-ce que vous le recommandez? Mais deux, surtout, est-ce que vous allez lire la suite? Cyrielle.
Moi, je recommande. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes, notamment si, voilà, peut-être on connaît déjà un peu le manga et je trouve que, du coup, c'est un pas de côté intéressant aussi parce que, ouais, par tout ce qu'on a dit, quoi, c'est assez, assez déroutant, ça change. Après, est-ce que je vais lire la suite? Oui, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Franchement, je suis quand même intriguée à savoir un peu vers où elle va aller, en fait. C'est quoi le prochain fil rouge, mis à part, effectivement, cette drogue, mais...
Qu'est-ce que ça veut dire, banana fish, aussi, quand même?
Effectivement, on ne sait pas.
Antoine?
Je pense que je le recommanderais aussi, alors avec peut-être un peu plus de réserve que le livre précédent, mais voilà, c'est quand même un ouvrage que je conseillerais. Notamment, voilà, si comme moi, jusqu'ici, vos références en manga, c'était Dragon Ball et One Piece, et vous n'aviez pas lu d'autres choses.
C'est différent.
C'est très différent, et ça montre aussi voilà, d'autres types d'histoires qui peuvent être racontées via ce type d'œuvre. Donc là-dessus, c'est très intéressant. Et j'ai également envie de lire la suite, parce que voilà, c'est quand même une histoire, une enquête policière. Donc forcément, on a envie de savoir le dénouement.
Eh bien, comme vous deux, hein, je recommande, avec évidemment l'énorme trigger warning pédophilie, ouais. Si ce sont des sujets et viols qui vous touchent, donc à éviter, mais ça vous l'aurez compris notre critique. Mais sinon, à part ça, c'est en effet une œuvre très intéressante et je lirai sûrement la suite aussi. Antoine, tu nous as pris un petit extrait, je crois.
Tout à fait. Donc, alors, c'est pas forcément évident de trouver un extrait sur une bande dessinée ou un manga. Mais voilà, j'ai trouvé un passage au début qui est un espèce de monologue dans un commissariat de police où finalement ils vont présenter un peu les bribes de l'histoire. Qu'est-ce que t'en dis, Jenkins ? Un suicide ? Suicide. L'autre victime, c'est son garde du corps. C'est le troisième cas cette année, rien que dans notre secteur. Et les trois types étaient loin d'être des saints. Ils se foutaient de la vie des autres. Mais à leur peau à eux, ils y tenaient. Pas vraiment le genre à se suicider, quoi. Le premier, c'était le 5 janvier. Richard Barr, 45 ans. Il habitait sur la 152e Upper East Side. On le soupçonnait de fricoter avec la mafia. Il s'est fait sauter la cervelle avec son Smith & Wesson. Pour le deuxième, l'importateur, il y avait un témoin. Il s'est jeté par la fenêtre sous les yeux de sa femme. Et maintenant, Jerry Watts, qui se tranche la gorge avec son rasoir, sauter du haut d'un immeuble, se tirer une balle dans la tête. Ce sont des suicides, tout ce qu'il y a de plus banal, rien à dire. Mais dans ce dernier cas, pourquoi avant de se couper la gorge, a-t-il pris la peine de trancher celle de son garde du corps ?
Mmh. Un mystère de plus. Merci Antoine. Et on passe à la dernière critique de cet épisode. Il s'agit d'Eden Springs de Laura Kasiski que Cyrielle va nous présenter.
Merci Mehdi. Donc Eden Springs est le troisième livre de Laura Kasiski paru aux éditions Page à Page. Alors un petit mot sur l'autrice. Laura Kasiski est née en 1961 aux États-Unis dans l'État du Michigan. Elle a publié plus d'une dizaine de romans et a été récompensée de plusieurs prix. Elle se présente comme une poétesse, nouvelliste et romancière. Vers l'âge de 30 ans, Laura Kasiski va entendre parler d'une vieille histoire étrange qui s'est déroulée non loin de sa ville natale au Michigan. Et elle va décider d'en apprendre un peu plus et va se plonger dans cette enquête et essayer d'en percer le mystère. Et du coup, à partir de ce fait divers, l'autrice va écrire Eden Springs, donc un mélange entre fiction et fait historique. Et là, vous vous dites, mais quelle est cette histoire si mystérieuse ? Eh bien, c'est l'histoire de la House of David, ou Maison de David, une secte religieuse fondée en 1903 dans le Michigan et qui a perduré quasiment 20 ans. Alors, la Maison de David, elle a tous les codes de la parfaite secte. Le gourou mégalomane, donc Benjamin Purnell.
Et obsédé sexuel.
Voilà.
Mais charismatique.
Surnommé très humblement au roi Ben. La bonne parole. Donc, Dieu a soufflé au roi Ben qu'après la fin du monde, ils auraient la vie éternelle dans un corps, jeune, s'ils avaient foi en lui. Donc, plutôt pas mal. Plutôt bien. Évidemment, les adeptes, sinon ça ne marche pas. Ça a plutôt pas mal marché, puisqu'il y a plus d'un millier d'adeptes qui sont venus à la Maison de David.
Du monde entier.
Du monde entier, exactement. Donc là, qu'est-ce qui manque ? Eh oui, un paradis pour accueillir tout ce petit monde. Et là, c'est une véritable ville avec des maisons magnifiques, un parc d'attractions qui aurait, paraît-il, inspiré Disney World, donc rien que ça. Et même une équipe de baseball. Non, oui, on est aux États-Unis hein, quand même. Et peut-être pour terminer, quelques règles de vie imposées. Du travail, bien sûr, donc notamment dans les vergers et les champs. De porter uniquement des vêtements blancs, des cheveux longs et des barbes longues. Et puis, il y a aussi quand même pas mal d'interdits. Pas de sexe, pas de viande, pas de tabac. Donc, voilà. Bref, vous l'avez compris, on a tout. Le manuel est complet hein, de la parfaite secte. Ce qui manque peut-être, c'est le fameux mystère que l'autrice Laura donc Kasiski cherche à élucider. Et elle l'annonce assez vite dans le livre. C'est la chute de ce petit paradis. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Alors, pour pas trop en dire, car le livre est quand même très court, mais voilà, l'enfer s'est clairement caché derrière ce petit paradis.
Et est-ce que ça t'a plu, cette lecture ?
Ben, moi, j'ai un avis plutôt positif, même si ça, là aussi, je trouve une lecture que j'ai trouvée vraiment, vraiment étrange, déjà par la forme, car on a ce mélange entre des faits historiques et on a vraiment dans le livre l'intégration d'éléments de journaux, des témoignages, des morceaux d'enquête policière. À la fin, on a aussi des photographies. Et en même temps, on a des dialogues, des descriptions fictives. Donc voilà, c'est un mélange un peu étrange. Et l'autrice, elle va jouer un peu avec nous, à nous déstabiliser, je trouve, dans la narration. Car on n'a pas vraiment de chronologie qui est respectée dans l'histoire, dans le livre. Et parfois, les personnages sont aussi assez ambigus. Et un élément intéressant, c'est que l'histoire, elle est racontée par pas mal de narratrices différentes et sur de très courts chapitres. Et on va vraiment se balader de personne en personne.
Mais c'est quand même toujours plus ou moins la troisième personne, mais oui. Focalisé sur des personnages différents.
Oui, ouais, tout à fait. Et effectivement, le roi Ben, il est présenté au début comme quelqu'un de très charismatique, envoûteur, et très vite, on voit qu'il va en profiter. Et finalement, le pervers narcissique toxique va apparaître et son statut va vraiment lui permettre d'abuser sexuellement de plusieurs femmes et de très jeunes adolescentes.
Et toi, Antoine, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Alors, avant de donner mon avis, peut-être pour rebondir sur ce que disait Cyrielle sur le parc d'attractions d'Eden Springs qui aurait inspiré Walt Disney, il me semble que c'est encore plus que ça, puisqu'il est mentionné dans le livre que Walt Disney, en fait, a même racheté le train miniature d'Eden Springs pour le mettre dans son premier parc. Donc, il y a vraiment des liens assez forts. Ensuite, pour ce qui est donc de mon avis, j'ai pas du tout été emballé par ce livre. Peut-être que c'est un problème de traduction, puisque je l'ai lu en français, donc j'ai pas trop accroché au style d'écriture. Et sur l'histoire racontée, je pense que le but de cet exercice pour la romancière, c'était de donner de corps et donner vie en fait à un fait divers qui n'est raconté sinon que par des coupures de presse. Et en fait, je n'ai pas appris beaucoup plus de choses que ce qu'il y a déjà dans les coupures de presse, qui figurent d'ailleurs dans le livre finalement. Donc je n'ai pas trouvé un grand intérêt.
Bah, je trouve que le livre, il cache un peu sa nature au début en tout cas. Au début, on a un peu l'impression qu'on va lire une sorte de témoignage sur comment se crée une secte, sur les mécanismes, etc. Et plus on avance, plus j'ai eu l'impression en fait, de lire un roman policier, avec une enquête, un twist, deux twists même, des trucs un peu cachés, et finalement, qui a fait quoi. Et ça devient ça, le cœur du livre. Et moi, ça m'a un peu déçu, parce que je trouve que le sujet est tellement fou. Cette histoire est incroyable. Alors, comme toujours, quand on parle de secte, moi, j'ai toujours cette incrédulité de me dire, mais comment c'est possible ? Comment ces gens... Comment il peut avoir ces gens ? Comment il peut avoir un tel charisme que ce type qui sort de nulle part arrive à fédérer autour de lui des familles entières, des couples qui viennent et dont les maris laissent leurs femmes coucher avec lui quand bon lui semble, juste parce qu'il a réussi à les convaincre d'une chose incroyable, qu'ils allaient être immortels grâce à lui. Et c'est ça que j'ai préféré dans le livre, je pense, c'est quand ils se rendent compte que leur principe clé, c'est grâce à lui, eux et eux seuls sont immortels. Et donc, il arrive un moment où les gens commencent à mourir dans la secte, et là, ça devient le drame, parce que c'est le cœur de tout son propos, c'est de dire qu'ils ne vont pas mourir. Donc, il y a un problème qui se crée assez vite de crédulité de son projet. Mais malgré ça, il y a tout cet univers étrange, ces principes, ces règles dont on ne s'est pas sorti d'où, et pourtant elles y croient, elles ont l'air d'y croire dur comme fer, mais ça je trouve qu'elles le retranscrivent plutôt bien à travers certains personnages qui sont, on va dire, on n'a que les points de vue de femmes, mais qui sont quasiment toutes amoureuses, on va dire, de lui. Je pense qu'il y a une forme d'amour, d'adoration, d'idolation. Mais c'est pas le cœur du livre, je trouve. Très vite, elle s'en éloigne un petit peu pour plus se rapprocher de cette histoire de faits divers à résoudre. Et ça, j'avoue que ça m'intéressait beaucoup moins et que je trouve que le livre perd en force à cause de ça.
Ouais, je te rejoins un peu sur un des aspects, moi, négatifs que j'ai trouvé. C'est qu'au final, j'aurais voulu avoir plus d'éléments pour vraiment comprendre les mécanismes de la secte.
C'est un lapsus révélateur.
Et comment ces femmes, mais aussi les hommes, parce que c'est vrai qu'ils sont assez absents, quasi absents de tout le roman, mais se sont retrouvés complètement embrigadés et aveugles. Et vont même jusqu'à commettre l'irréparable, quoi. Donc, c'est vrai que finalement, ça, elle va pas du tout aller creuser vraiment ce sujet-là. Après, j'ai quand même bien aimé, justement, ce que tu disais un peu, le thème finalement de la vieillesse, et qui d'ailleurs est en partie un peu responsable de la chute de cette secte. Et c'est le personnage de Cora Moon, donc qui incarne un peu ce thème. Puisqu'elle est l'une des plus fidèles des adeptes. Et elle va être nommée avec le temps de vieille.
Et parce qu'il ne faut pas mourir, mais il ne faut pas vieillir non plus.
Et voilà, exactement, sinon ça ne marche pas. Mmh. Et comme c'est en même temps la plus fidèle, ça met en contradiction complètement les préceptes du roi Ben, là, quoi. Qui, lui, prêche l'éternelle jeunesse. Donc, voilà. Donc, il y a des choses intéressantes. Mais effectivement, peut-être, on n'a pas non plus vraiment de position très claire de l'autrice et on ne sait pas la vérité, en fait. Ça reste des moments un peu fictifs qu'elle va venir...
Alors moi, sur ce côté d'immortalité, j'ai une compréhension un peu différente. Il faudrait revoir dans le livre comment c'est expliqué, mais pour moi, il n'aura pas garanti d'être immortel, mais juste de renaître avec leur corps et une jeunesse éternelle quand arrivera la fin des temps. Et donc, ce n'est pas contradictoire avec la mort de Fidel. Et après, voilà, sur les deux aspects du livre, donc effectivement, sur les mécanismes d'endoctrinement, j'ai trouvé ça assez rapide, parce qu'il suffit que Benjamin Purnell arrive... fasse son speech de « Vous allez vivre éternellement, regardez comment je suis beau » et les gens le suivent aveuglément. Alors peut-être que c'est aussi facile dans la vraie vie, je ne sais pas, mais ça aurait été peut-être intéressant de revenir sur le parcours ou ce qui fait que des gens vont être sensibles à ce genre de discours. Et sur le côté enquête, on n'en apprend pas grand-chose puisqu'on sait qu'il y a un moment on nous parle d'une victime mais on ne saura jamais qui l'a tuée, comment est-elle morte, ni trop pour quelle raison, enfin...
C'est un peu sous-entendu.
Oui, c'est sous-entendu, mais sans jamais avoir de certitude. Et je trouve qu'on reste sur sa fin. Et voilà, tout à fait honnête. Ouais. Ce que j'ai trouvé finalement le plus intéressant, c'est les photos d'archives, puisque c'est très documenté. Il y a beaucoup de photos des membres de cette secte, des endroits où ils vivaient, donc une ville qui a été créée pour l'occasion, et de ce fameux roi Ben, où effectivement, il a quand même une aura qui dégage de ces photos. Et voilà, entre les photos et les coupures de presse, j'ai trouvé que finalement, c'était les points les plus intéressants.
Après, j'ai lu un peu en faisant des recherches sur Laura Kaczynski qu'en fait, il y avait très peu d'éléments disponibles sur cette secte. Et les témoignages qu'elle a pu retrouver, en fait, ils sont assez contradictoires.
Plus pour s'y engouffrer. Enfin, c'est un matériau assez génial. Puisque si tu as un matériau de base qui est lacunaire, tu es libre à toi d'inventer ou d'enrichir. Et là, je trouve qu'elle ne va pas.
C'est vrai que c'est assez étrange comme exercice. Après, c'est vrai que sur l'embrigadement, on sent quand même au travers un petit peu des différentes histoires qu'on suit, que la vie, elle est difficile. Et que...
Fin 19e, début 20e.
Tout à fait.
Une Amérique un peu aussi qui se cherche beaucoup.
Exactement.
Qui a l'air beaucoup plus ouverte, étrangement, sur les questions religion, ou en tout cas une sorte de tolérance des nouveaux trucs qui apparaissent, tant que ça reste un peu dans la chrétienté, je pense.
Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que quelques femmes décrivent des vies assez difficiles avant de rentrer dans la secte. Donc, il y a peut-être cet attrait-là aussi de vivre quelque chose de meilleur, quoi, tout simplement, de différent.
Qui peut pas être pire.
Qui peut finalement être pas trop pire. Bon, finalement, un peu quand même. Mais après.
Elles sont pas toutes l'air malheureuses.
Ouais, c'est ça qui est assez, assez déroutant. C'est qu'on a des personnages assez contradictoires. Après, il y en a quand même certains où c'est quand même très glaçant. Ouais. C'est vrai que c'est ça un des aspects que j'ai trouvé, moi, assez déroutant, c'est qu'on passe un peu de scène assez, assez solaire, avec une sorte de naïveté, parce que tout est beau, tout est ensoleillé, il y a des petites abeilles. Et ensuite, on passe à des scènes, mais horribles, et vraiment, ouais, hyper... hyper terrifiante, quoi.
Avec beaucoup de non-dits aussi, comme on est souvent du point de vue des femmes. Il y a beaucoup de choses qu'on doit essayer de deviner. Est-ce qu'il s'est vraiment passé ce qui s'est passé ? Il est allé rentrer dans la chambre de telle personne, mais qu'est-ce qu'il y a fait ? Il y a aussi beaucoup de choses que l'autrice nous force un peu à reconstituer par nous-mêmes, ce qui, à la fois, rend peut-être les choses plus intéressantes, mais nous laisse un peu sur notre faim aussi, je pense.
Ouais, moi, j'ai eu du mal avec ces non-dits. Alors, peut-être que j'ai un côté voyeur qui, finalement, s'est révélé à la lecture de ce livre, mais... voilà, ça nous présente des scènes, et puis débrouillez-vous pour en tirer les conclusions. D'accord.
Oui, c'est un peu ça. Après, moi, il y a un élément quand même qui m'a frappée. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose à la lecture de ce livre. C'est que moi, j'avais vraiment au début l'impression d'être dans les années hippie, avec une sorte de Charles Manson. Oui. Alors que pas du tout, en fait. Ça se passe au début du XXe siècle. Et justement, je croyais que c'était les photographies qui permettaient de remettre un peu le contexte quand même, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez déroutant sur... finalement, il y a vraiment tout le...
Moi, j'ai pensé à Charles Manson et j'ai pensé à Jared Leto, un peu plus récent, dans sa période de gourou de secte. Bah, il a eu une période un peu où il se mettait en blanc avec... sur une île ou un truc comme ça avec des jeunes filles, un truc un peu bizarre. Oula. Aussi. Je ne sais plus le nom de son truc, là, une sorte de communauté bizarre. Donc, bref, oui, ça m'a fait penser à ce type de personnage-là. Mais oui, comme quoi, à travers les temps, il y aura toujours des hommes pour se faire des havres de paix où on couche avec toutes les femmes qu'on peut.
Moi, j'ai quand même ressenti aussi... parce que c'est vrai qu'elle décrit certaines femmes qui sont fascinées, etc. Mais il y en a aussi d'autres qui sont absolument horrifiées. Donc il y a de la nuance aussi, hein. C'est pas que de l'adulation. Il y a aussi certaines femmes qui ne le souhaitent pas du tout et qui sont violées, hein, tout simplement. Ouais. Donc il y a un peu de tout. Donc c'est vrai que c'est un peu un peu comme Banana Fish. J'étais déroutée. Quoi, qu'est-ce que je suis en train de lire là?
Oui. Et ben pour ça rejoint un peu ce qu'on dit. Moi, j'ai vraiment eu l'impression en le lisant que la réalité était plus incroyable que ce que le livre nous présentait, en fait. Que j'aurais été plus fasciné par un pur documentaire, en fait, sur qui était impossible à faire, hein, comme tu l'as dit, Cyril. Mais je trouve que le livre nous laisse percevoir quelque chose de incroyable, enfin, au sens propre du mot incroyable, auquel on ne peut pas croire, mais que son angle d'attaque via les personnages qu'elle choisit via cette enquête n'est pas le plus intéressant par rapport à tout ce qu'il y a à côté, en fait.
Ouais, surtout que, tu vois, de ce que j'ai pu voir un peu, enfin comprendre, c'est que cette secte, il y a eu, je sais plus, entre 1000 et 2000 adeptes qui ont vraiment vécu dans la maison de David, mais il y a eu, avec ce parc d'attractions, des milliers et des milliers de touristes qui sont venus. Donc, ça a eu énormément de succès. C'était une institution. Ça a ramené aussi beaucoup d'argent dans la ville où ils étaient, etc. Donc, c'est vrai que, il y avait des cartes postales, pas mal de choses. Et elle, ce qu'elle disait, c'est que quand elle allait sur le site... Tout est à l'abondant, repris par la végétation. Donc, c'est vraiment une chute, quoi. Enfin, oui.
Et même ça, je trouve qu'elle en parle peu dans le livre, de la chute à proprement parler. On a un peu des indices, mais pas beaucoup.
Non, je suis d'accord.
Comment il finit, comment la secte finit, comment... Même ça, finalement...
Parce que finalement, on ne sait pas trop, finalement, le résultat de l'enquête fin.
On comprend que ça n'a rien donné, non ? Parce qu'à un moment, je crois que...
Ouais, c'est ce qu'on comprend un peu, mais pourtant, il y a une chute quand même, donc...
Pourquoi tout d'un coup, ils y ont plus cru ? Ouais, non, il y a quelque chose qui manque, je trouve.
Ouais, et au-delà du fond, ouais, après, moi, j'ai encore une fois le style d'écriture. Alors voilà, c'est pas non plus rédhibitoire, c'est pas pesant ou autre, mais j'ai pas trouvé ça particulièrement bien écrit. Enfin, je trouve qu'il y a des petites phrases un peu gratos pour...
Oui, on l'a pas dit aussi, c'est... des chapitres très courts, c'est 2-3 pages, un chapitre, et donc ça va être soit un flashback, soit le point de vue de quelqu'un, soit... Et du coup, on va passer dans un rythme assez rapide d'un point de vue à l'autre. sur un livre qui est déjà assez court de manière globale. Et je suis d'accord avec Antoine, moi j'ai pas été non plus... J'avais des trucs un peu faussement poétiques qui m'intéressaient moyennement, mais bon, c'est pas non plus affreux.
Ça m'a pas choqué, moi. Après...
C'est parce que j'aime pas les phrases sans verbe, en fait.
Ouais, mais c'est aussi qu'effectivement, on passe aussi de l'histoire d'une personne à l'autre. En plus, tout n'est pas chronologique. Donc, on se fait un peu... moi, j'ai trouvé un peu... comment dire, on est un peu véhiculé d'un truc à l'autre. Et c'est vrai que c'est un peu...
Ce qui lui permet de faire des twists aussi.
Ce qui lui permet de faire des twists.
De construire son intrigue policière.
Moi, je pense que j'ai un avis un peu plus positif quand même. Ça m'a quand même intéressée. J'ai quand même été prise, moi, par le récit et l'enquête. Mais effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'on reste sur sa fin, quoi.
Très bien. Je pense qu'on a fait le tour de Eden Springs. Est-ce que vous le recommandez, Antoine?
Moi, non, je ne le recommanderais pas. Bon, ça décharge, il est court, voilà, si jamais vous tombez dessus, ça se lit vite, mais sans plaisir, en tout cas, en ce qui me concerne.
Cyrielle ?
Moi, je le recommande quand même. Voilà, après, c'est une lecture qui est vraiment très courte. Je trouve qu'il y a quelques aspects assez intéressants, même si, effectivement, voilà, il y a quelques points de réserve. On aimerait que ça aille un peu plus loin, quoi.
Et comme Antoine, moi, je ne le recommande pas. Je ne le trouve pas ni nécessaire, ni particulièrement agréable. Donc,
oui, puis il n'est pas mauvais non plus. En fait, on est dans un entre-deux, finalement. Oui.
C'est ça.
C'est moyen.
C'est moyen. Très bien. Cyrielle, tu vas nous donner une petite idée de la prose de Laura Kosciuszko.
Oui. Donc, j'ai choisi un tout petit paragraphe. Donc, page 31. Benjamin adorait les filles. Les jeunes filles. À ses yeux, nous étions comme des fruits. À nos yeux, il était comme Dieu. Il nous a dit que si nous avions foi en lui, nous aurions la vie éternelle, pas juste de l'esprit, mais du corps aussi. Quand viendrait la fin, nous retrouverions le corps de notre jeunesse à l'identique. Svelte, sans tache, parfumée. Et cela paraissait plus que possible, cela paraissait vraisemblable, aussi vraisemblable que la vie que nous menions à l'époque.
Merci Cyrielle. On en a fini avec les critiques. On va passer à l'avant-dernière partie du podcast, les recommandations.
Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis. Tu peux avoir confiance en moi. Aie confiance, crois en moi. Que je puisse.
Les recommandations, c'est la partie du podcast où les chroniqueurs et chroniqueuses sont enfin libres d'afficher leur goût, d'afficher leur choix, en nous recommandant ce qu'ils veulent. C'est totalement libre. Et d'ailleurs, Antoine, qu'as-tu choisi ?
Ah, enfin libre. Eh bien, pour changer donc de support culturel, je vais vous parler d'un groupe de musique qui s'appelle The Pineapple Thief, donc le voleur d'ananas. Que je réécoute en ce moment, et donc c'est un groupe alors de rock alternatif avec des parties très mélodiques et très douces, et parfois des grandes envolées un peu plus puissantes. Enfin, c'est au premier abord assez facile d'écoute, et si on se concentre, on se rend compte que c'est très virtuose, que les musiciens sont très techniques, et, ce qui est assez appréciable. Donc si je suis retombé dessus, c'est parce qu'ils ont sorti un album cette année, mais si vous deviez commencer à les écouter, je vous conseillerais un album de 2018 qui s'appelle Dissolution.
Merci Antoine. Cyrielle, quelle est ta recommandation ?
Alors, pour ma recommandation, je me suis dit qu'on avait quand même eu trois ouvrages assez sérieux pour ce podcast.
C'est vrai.
Et du coup, j'avais envie de vous recommander De la joie avec un spectacle de stand-up.
Ah.
Et il s'agit du spectacle de Lou Trotignon, qui est un humoriste qui se définit comme un mec trans non-binaire. Son spectacle s'appelle Mérou. Alors, pourquoi le Mérou ? Car c'est un poisson qui a la capacité de changer de sexe au cours de son existence. Donc, Lou Trotignon a un humour à la fois doux et engagé. Et il va nous embarquer, en fait, dans son histoire personnelle. Et finalement, les thèmes qui vont être abordés font assez écho à des questions qu'on peut toutes et tous se poser. Et notamment, sommes-nous obligés d'être ce qu'on nous a dit d'être ? Voilà, donc c'est son spectacle, Mérou, est actuellement à l'affiche de la Nouvelle Scène. Donc c'est un lieu assez sympa aussi. C'est sur une superbe péniche. Et il se déroule jusqu'en juin prochain. Donc voilà, allez-y sans hésiter.
Et j'imagine qu'il doit y avoir des vidéos ou des sketchs sur Internet.
Oui, j'ai vu qu'il y avait surtout une petite apparition sur France Inter. Donc voilà, pour vous donner un petit avant-goût.
Merci, Cyrielle. Et moi, je vais vous recommander le retour d'un grand nom du talk show américain. C'est Jon Stewart. Jon Stewart qui a été pendant longtemps à la tête de l'émission The Daily Show, une émission qui parodie ou en tout cas qui jette un regard humoristique mais acéré sur l'actualité. Dans les années 90 et le début des années 2000, Jon Stewart avait arrêté et là il revient tous les lundis. Donc le mardi matin en vous levant, vous pouvez retrouver les vidéos de Jon Stewart sur YouTube. Il débriefe notamment évidemment l'élection américaine entre les deux vieux candidats à la présidence, mais il donne aussi son point de vue sur les sujets contemporains, notamment un très bon extrait sur le conflit israélo-palestinien. Donc c'est toujours, je trouve, il a toujours son œil assez frappant. Il est toujours aussi très très drôle dans ses punchlines, dans son rythme. Il n'a pas perdu ce qui faisait sa force pendant des années et des années. Donc je vous recommande le retour de Jon Stewart au Daily Show. Et on va passer maintenant à la dernière partie du podcast, le tirage au sort des œuvres du mois prochain. Mais pour ça, je vais évidemment accueillir les chroniqueurs et chroniqueuses du mois prochain, en l'occurrence les chroniqueuses. Et je vais donc dire au revoir à Antoine et Cyrielle. Au revoir et merci.
Au revoir.
Au revoir, merci Mehdi.
Et on passe au tirage au sort. Avant de passer au tirage au sort, un petit message d'information. Il y a eu une erreur lors du montage du précédent épisode qui a été corrigé depuis, mais si jamais vous aviez écouté l'épisode au moment de sa sortie, vous allez peut-être remarquer que le tirage au sort est étrangement similaire. En effet, il y a eu une petite erreur lors du montage qui fait que le mauvais tirage au sort a été associé au début à l'épisode précédent. Donc vous avez peut-être déjà entendu le tirage au sort qui va suivre, mais cette fois-ci on est dans la bonne temporalité puisque c'est bien l'épisode prochain que Victoria et Charlotte me rejoindront pour critiquer les livres, et donc c'est avec elles que l'on va faire le tirage au sort désormais. Bonne fin d'épisode. Et nous voici de retour pour la dernière partie du podcast, le tirage au sort. Dans ce tirage au sort, nous allons choisir les livres et la bande dessinée que nous allons critiquer le mois prochain. Mais pour ça, je dois recevoir les chroniqueuses qui m'accompagneront lors de cet épisode. J'accueille donc Charlotte. Bonjour Charlotte.
Bonjour Mehdi.
Et Victoria. Bonjour Victoria.
Bonjour Mehdi.
Vous connaissez les règles, mais je le réprécise quand même pour les auditeurs et les auditrices. J'ai compilé la liste de toutes les recommandations que vous nous envoyez à podcastdmed@gmail.com. Vous pouvez d'ailleurs continuer à nous envoyer des listes de livres. Il n'y a pas de règles. Vous nous envoyez ce que vous voulez, autant de livres que vous voulez, et nous tirons au sort parmi cette liste. Et chacune et chacun des chroniqueurs et chroniqueuses a le droit à un et unique veto qu'il peut utiliser pour mettre de côté un livre qui ne lui convient pas. On commence tout de suite le tirage au sort. Le premier livre nous vient des États-Unis. Il est paru en 2001. Il fait 384 pages. Écrit par Anne Boisharès. Il s'appelle « Quatre filles et un jean ».
Ah, j'ai déjà lu, je crois.
Victoria, est-ce que tu mets ton veto ?
Veto.
Veto de Victoria.
Mais ce sera facile à lire.
Trop tard. Le veto union ne peut pas influencer les autres mais participants, Charlotte.
Mais pourquoi t'as mis ton veto de 4 filles et un jean ? C'est super bien, le film est trop drôle. Hein.
Ça, je le garde, hein, Charlotte.
4 filles et un jean, c'est mon adolescence.
Ouais, mais oui, mais
toi aussi, tu l'as vu. On va lire un truc en russe de 95 000 pages.
En plus, c'est Anne, c'est une meuf. J'ai mis un veto sur une meuf.
Deuxième livre.
Pourquoi t'as fait ça ?
Mais je sais pas.
On devait se regarder en
je
plus.
Je peux remettre, je peux. Allez, s'il te plaît.
Deuxième livre. Un livre américain qui fait 550 pages.
Je t'ai dit.
paru en 2018. Ça s'appelle L'Arbre Monde de Richard Powers.
Ah oui, bah, je voulais le lire.
Est-ce que tu mets ton veto?
Non, je voulais le lire. Celle-là.
Moi non plus.
Et moi, tu me demandes pas.
Ben non, t'as plus de veto. Deuxième livre tiré, paru en 2015. Il fait 464 pages. Il vient de Tunisie, publié par Eddy Kadour et s'appelle Les Prépondérants. Charlotte, un veto?
J'adore la Tunisie.
Très bien. Donc, pas de veto. Il te reste quand même un veto et à moi aussi pour la bande dessinée.
Tu mets pas de veto, toi, Mehdi?
Je ne mets pas de veto. La bande dessinée tirée nous vient de France. Elle date de 2019. A été scénarisée et dessinée par Hub ou Hub, H-U-B, ça s'écrit. Ça s'appelle Le Serpent et la Lance, tome 1, Ombre Montagne. Charlotte, est-ce que tu mets un veto?
C'est le tome 1, donc ça.
Donc, pas de veto, moi non plus. Nous avons donc nos trois œuvres, L'Arbre Monde de Richard Powers, Les Prépondérants de Eddy Kadour et Le Serpent et la Lance, tome 1, Ombre Montagne de Hub. Je vous dis à dans un mois et d'ici là, bonne lecture.
Merci,
Mehdi. Salut.
Merci, Mehdi.